C'est l'émission des Apatrides Anonymes sur choc.ca, en direct le 11 juillet 2019, sinon en balado sur le site de Choc, choc.ca ou apatridesanonymes.info. Toujours un menu super chargé, des actualités européennes, une citation raciste, un dossier africain, une première partie, des actualités fédérales, des actualités municipales. Est-ce que Montréal est une ville sanctuaire, une ville sans peur ou rien de tout ça? Une nouvelle insolite même. Donc bientôt, on commence l'émission des Apatrides Anonymes.
Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières.
Donc, on va commencer avec notre premier sujet, première chronique. On parle, comme le disait Simon, actualité européenne. On en fait depuis quelques temps. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'international et d'européens. Donc, pour les intéressés, ça va être du bon contenu. Moi, je voulais vous parler du quelque chose qu'on connaît pas beaucoup, le groupe de Visegrad. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Appelé le V4. Donc, c'est... Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est avant, dans quelques secondes. Juste vous dire que ça remonte à l'an 1335. À l'époque, les rois de Hongrie, Pologne, Bohême se réunissaient pour des raisons politiques dans la ville hongroise de Visegrad. Mais le groupe de Visegrad moderne a été créé en 91 lorsque les dirigeants polonais, tchécoslovaques et hongrois se sont réunis dans la ville hongroise de Visegrad pour favoriser la coopération entre ces trois États issus du pacte de Varsovie. Pourquoi je vous parle d'eux aujourd'hui? Parce que c'est un groupe quand même qui a de plus en plus d'influence en Europe, dans l'Union européenne, au niveau de la Commission européenne, du Conseil européen, du Parlement européen, en lien entre autres avec les élections qui ont eu lieu à la fin mai. Donc, évidemment, à l'époque, il était trois. La Tchécoslovaquie est devenue deux avec la Slovaquie et la Tchéquie ou la République tchèque. Donc, depuis 93, c'est le V4, donc les quatre groupes de l'Europe centrale, qui étaient là au début pour s'aider à intégrer l'OTAN et l'Union européenne, après avoir quitté le pacte de Varsovie et le Comecon. Sinon, depuis, chacun de ses membres est parvenu à ses fins au niveau de son intégration, et mais ils ont la misère à avoir une position unifiée, disons ces quatre États-là. Ils ont une vision commune seulement sur deux thématiques, on pourrait dire, c'est-à-dire la question migratoire et sur les fonds d'aide de l'Union européenne, quand même. Hein? Et ces quatre pays-là, évidemment, ont besoin des budgets de l'Union européenne parce qu'ils ont des économies relativement petites et qui dépendent beaucoup, donc, du reste de l'Europe. C'est un élément important à savoir, quand même. Et peut-être vous dire que face aux poids lourds de l'Union européenne, que sont, par exemple, la France et l'Allemagne, son influence à ce groupe V4 ou Visegrad est relativement limité. Mais ça reste dans les faits une alliance ad hoc, mais qui se réunit quand même plusieurs fois par année au niveau de la présidence, des premiers ministres, des ministres, et qui fait parler de plus en plus de lui. Donc, le V4 ou groupe de Visegrad, on a entendu parler d'eux, surtout depuis 2015, en raison de la question migratoire depuis la fameuse crise, entre guillemets, migratoire de 2015, parce qu'en 2018, ils ont boycotté un sommet spécialement sur la migration avec tous les autres chefs d'État européens. Donc, ça a empêché d'avoir un consensus souhaité sur la question des fameux quotas de migrants à être répartis entre les pays. Et depuis ce temps-là, le groupe de Visegrad, il s'emploie surtout à bloquer la réforme du règlement de Dublin. Règlement de Dublin, si vous le savez pas, parce que c'est pas quelque chose qui est très connu, c'est ce système, ce processus qui dit que les migrants qui sont rentrés dans un pays, c'est là qu'ils doivent faire la demande d'asile. Donc, évidemment, c'est toujours les mêmes pays en Europe, dont l'Italie et la Grèce, qui reçoivent les migrants et qui doivent gérer ensuite les demandes d'asile. Et ces pays-là, ils veulent pas de quotas, ils veulent pas que ce changement, le règlement de Dublin soit changé. Donc, c'est à peu près leur principal cheval de bataille actuellement. Sinon, ils défendent beaucoup la souveraineté des États membres au sein de l'Union parce que c'est beaucoup des nationalistes, les gouvernements qui sont à la tête de ces États-là actuellement, nationalistes, populistes, droite assez traditionnelle. Donc, ils veulent vraiment garder leur indépendance tout en étant très bien engraissés par l'Union européenne, évidemment. Et ils font front commun sur les questions économiques et sociales et défendent une vision plutôt néolibérale du marché unique européen. Vous dire qu'il y a eu un autre moment où on a entendu parler d'eux en février dernier. Il devait y avoir un sommet avec Israël et les quatre pays du groupe de Visegrad. Puis en plus, c'était un sommet qui devait un peu faire la paix avec Israël après les propos antisémites de plusieurs des dirigeants, dont les dirigeants polonais et hongrois, évidemment, dans les derniers mois. Finalement, le sommet n'a pas eu lieu parce que c'est les officiels israéliens, entre autres le ministre des Affaires étrangères, qui a sorti des propos assez particuliers, ben, qu'on peut comprendre peut-être, mais enfin, qui sont assez particuliers. Il a dit, entre autres, que de nombreux Polonais avaient collaboré avec les nazis, ce qui est quand même un fait historique, et que les Polonais sucent l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Donc, les Polonais...
Ça veut dire quoi exactement, ça?
Ben, ça veut dire qu'à la naissance, ils sont déjà antisémites.
Okay,
donc,
okay.
Et donc, finalement... finalement, ben, c'est sûr que le sommet a été annulé parce que les Polonais n'ont pas trouvé ça drôle, ils ont annulé leur présence. Mais il faut dire que c'est dans un contexte où en Pologne, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, il y avait une loi qui avait été votée, finalement modifiée, qui visait à criminaliser les gens qui associaient les Polonais à l'Holocauste ou aux crimes nazis, ce qui avait beaucoup déplu à Israël, évidemment. Donc, on est dans ce genre de niveau de discussion-là et d'accusation-là. Mais évidemment, ces quatre pays-là, ils veulent se rapprocher des États-Unis. C'est ça leur but dans la vie. Ils ont à peu près la même orientation politique, et Israël est un bon moyen pour se rapprocher des États-Unis, évidemment, dans un contexte international. Donc, voilà pour cette partie-là, sur ce sommet-là annulé en février dernier. Sinon, ben, les élections européennes, Marie-Ève en a parlé il y a quelques semaines, il n'y a pas eu le tsunami national populiste appréhendé, mais ces partis-là, ces pays-là ont quand même monté en puissance au niveau du Parlement européen. Le parti Fidesz de Viktor Orban, évidemment, de Hongrie, a eu quand même des gros scores. Le PIS de Kaczynski en Pologne aussi. Ils se présentent comme les défenseurs de l'Europe chrétienne face aux évasions migratoires. Et avec leur ami à Prague du parti ANO, il s'appelle Andrzej Babis. Donc, c'est un peu le trio. La Slovaquie est un petit peu plus progressiste au niveau de ses dirigeants actuels. C'est un peu plus à gauche. Ben, à gauche. Centre-gauche, disons. Mais il y a peut-être une différence importante à faire aussi entre ces partis-là, Orban, Kaczynski, et l'extrême droite de Salvini, de Le Pen, du chancelier autrichien aussi, qui sont vraiment une extrême droite assumée, tandis que ces partis-là se disent plus nationalistes, droite conservatrice, ultra-conservatrice, mais vraiment nationalistes. C'est vraiment une partie qui est différente. Et ils veulent pas autant aussi couper les ponts avec l'Europe. Ils critiquent moins l'Europe parce qu'ils en ont besoin, comme on disait tantôt. Donc, puis ces partis-là, dans leur propre pays, souvent ont intégré l'extrême droite, comme en Hongrie, il y avait le Jobbik, qui est un parti d'extrême droite très, très dur. Ben, finalement, il a tellement perdu d'appui au profit du parti d'Orban qu'il s'est comme un peu intégré. Fait que, tu sais, on voit un peu les tendances. Fait que c'est pas comme le FPO en Autriche ou la Ligue en Italie. Peut-être vous dire aussi que ce qui est assez intéressant, c'est que ces quatre pays-là qui sont unis dans le V4 sont pas dans les mêmes groupes au Parlement européen. Parce que le parti ANO tchèque est dans le groupe libéral ALDE. Droit et justice, le PIS polonais est dans le groupe de l'Alliance des réformistes et conservateurs européens. Le Fidesz est dans le PPE, le Parti populaire européen. Et le SMER, qui est le Parti national populiste de gauche de Robert Fico au niveau de la Slovaquie, est, lui, dans le Parti socialiste européen. Fait qu'ils sont même pas ensemble dans les mêmes blocs au Parlement européen, mais ils se retrouvent ensemble quand même au niveau de ce fameux V4 et de certaines positions. Faut dire aussi qu'ils veulent pas toujours s'associer les deux plus petits pays avec la Pologne et la Hongrie, parce qu'on sait que dans ces pays-là, il y a eu des grandes attaques contre les tribunaux, l'état de droit, contre les médias, contre les minorités. Donc, c'est un petit peu plus touché. Et qui sont actuellement ces deux pays-là, la Hongrie et la Pologne, sous menace de sanctions avec l'article 7 de l'Union européenne, du Parlement européen, qui peut suspendre, évidemment, éventuellement leur participation et leurs droits parce qu'ils ont trop attaqué leurs institutions dites démocratiques. Peut-être vous dire aussi que ces quatre groupes-là ont un journal en ligne qui s'appelle le Visegrad Post, qui est en français, anglais et allemand. Hein? C'est pour les gens autour, évidemment, les journalistes et les gens intéressés à la politique d'Europe centrale. Ils sont associés avec le groupe Liberté, TV Liberté, qui est un diffuseur média de droite. Et peut-être pour le décrire, leur journal en ligne, ils disent, à l'inverse de la quasi-unanimité des médias en français, en anglais ou en allemand qui traitent de la région centre-européenne, le Visegrad Post représente une ligne conservatrice et attentive aux opinions majoritaires des pays suivis. Donc, c'est vraiment clair comme
ligne éditoriale.
Oui, c'est très, très clair. C'est vraiment un outil de propagande. Mais bon, faut l'assumer. Peut-être vous dire, avant de terminer, que si ça vous tente d'avoir plus de détails, il y a un dossier assez intéressant qui date de 2018, mais dans dans Mediapart sur l'ensemble de ces pays-là d'Europe centrale et les différentes tendances de droite. Ça s'appelle l'Europe centrale droite toute. C'est assez, assez facile à trouver sur Internet. Et peut-être que je terminerai en vous citant une citation de Monsieur Viktor Orban, qui est quand même le leader. On parle même d'urbanisation du V4, là, ces temps-ci, parce qu'il prend vraiment beaucoup de place, Viktor Orban. Et une citation qui date de juin dernier, donc tout récemment, après l'adoption d'une loi dont je vous ai parlé la semaine passée sur l'aide aux migrants. Il dit donc qu'actuellement a lieu en Europe un remplacement des populations organisé par les élites financières et économiques, et que cela se déroule en partie pour que des spéculateurs comme George Soros puissent gagner beaucoup d'argent en dévastant le continent. Soros et ses gens veulent construire une Europe multiculturelle parce qu'ils n'aiment pas la tradition de l'Europe chrétienne. Nous, nous ne voulons pas nous mélanger à d'autres. Il a dit ça à la Radio Nationale il y a quelques semaines, Viktor Orban, le champion.
Ouais, on parle quasiment des, ben, pas d'épuration ethnique, mais ça, ça s'en rapproche. Mais cette théorie-là du grand remplacement, elle est reprise abondamment
à toutes les sauces,
hein? Au Canada, aux États-Unis, en masse. Je pense que Trump en parlait aussi des fois.
Tout à fait. Oh, oui, c'est de plus en plus dans la rhétorique là, de l'extrême, ben, de la droite populiste c'est et ça. Xénophobe.
Puis pour attaquer ce qu'on appelle les mondialistes. Là.
Exactement.
Voilà.
Donc, les nouveaux libéraux. Donc, voilà. Fait que voilà, c'était un petit tour sur le V4. J'aurais pu en parler beaucoup plus longtemps. Il y a plein de choses. Mais quand même, si vous entendez parler d'un groupe de 4 pays d'Europe centrale qui est dans l'Union européenne, mais qui a des positions à part ou qui est surtout anti-immigrant, finalement, puis très, très nationaliste, ben, c'est eux autres, le V4, le groupe de Visegrad.
Thank you.
retour en studio. Simon au micro à l'émission des Apatrides Anonymes sur choc.ca. On écoutait la pièce Assouf du groupe Touareg Tinariwen, collectif originaire du nord du Mali qui existe depuis presque 40 ans. Ils font une sorte de hybride entre blues, rock et musique traditionnelle Touareg, et eux se définissent, définissent leur style comme étant du blues Touareg. Donc c'est quand même assez intéressant. Puis à partir de la capsule précédente en Europe, on a traversé la Méditerranée, on a fait une pause musicale dans le désert et on se trouve maintenant en Afrique subsaharienne. Lors d'une émission récente, on vous a parlé du dernier rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui nous apprenait plusieurs choses importantes, dont, entre autres, que la Syrie et l'Afghanistan dominent toujours la liste mondiale des pays d'où proviennent les réfugiés, dominent largement d'ailleurs, que la très, très grande majorité des pays d'accueil sont des pays pas très riches et limitrophes des zones de conflit. Ça, on le savait déjà, mais c'est bien de se le faire rappeler avec des chiffres officiels. Et surtout, on apprenait que 2018 avait été l'année record historique en termes de nombre de personnes réfugiées, plus que pendant les guerres mondiales, avec un chiffre hallucinant de 71 millions de personnes réfugiées dans le monde. Maintenant, on est en Afrique subsaharienne parce qu'on pensait que ça valait la peine de développer un peu sur cette région-là en particulier, parce que dans le top 10 des pays d'origine des réfugiés dans le monde, il y en a 7 sur 10 qui sont africains. Donc 7 sur 10, sauf la Syrie et l'Afghanistan qui sont au sommet de la liste, comme je le disais, et le Myanmar qui est en quatrième position. Les 7 autres pays générant le plus de réfugiés dans le monde sont africains et sont tous d'Afrique subsaharienne. Je vais vous les nommer. Le pays africain qui génère le plus de réfugiés est le Sud-Soudan. Vient ensuite la Somalie, le Soudan, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Érythrée et le Burundi. Si on regarde une carte de l'Afrique, on constate que tous les pays que j'ai nommés forment un genre de grand territoire continu qui va du Congo jusqu'à la Corne de l'Afrique et occupe pratiquement tout le centre du continent. Donc la migration elle-même provoque des migrations. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est une espèce de maelstrom de migration qui finit jamais puis qui s'interalimente, une sorte de cercle vicieux, puisque la migration elle-même déstabilise souvent les pays d'accueil, ce qui crée par la suite des nouvelles migrations. Bref. Faut dire qu'en Afrique, des déplacements de centaines de milliers de personnes, ça crée une pression énorme sur les infrastructures qui sont déjà insuffisantes dans des pays qui sont souvent parmi les plus pauvres de la planète. Donc, ça met une pression vraiment gigantesque sur tous les aspects de la vie en société, le logement, la santé, l'éducation, le transport, même les besoins les plus de base en santé publique qu'on prend souvent pour acquis, comme l'eau potable, la nourriture, la collecte d'ordures, les médicaments. Il faut ajouter, dans le cas de l'Afrique, les réfugiés climatiques qui sont de plus en plus nombreux dans la région, qui est peut-être la région de la planète la plus directement touchée par le réchauffement, à part, il y a les pôles, évidemment, mais ça touche moins d'êtres humains. Ça touche pas le réchauffement climatique touche pas nécessairement les 7 pays africains qui sont dans le top 10 mondial des réfugiés. C'est particulièrement vrai pour le Soudan, le Sud-Soudan, et dans une moindre mesure pour l'Érythrée. En plus de tout ça, il y a beaucoup de pays concernés qui ont leurs propres problèmes politiques. Ben, en fait, la plupart des pays africains ont des graves problèmes politiques, donc parfois des conflits armés qui finissent plus, des régimes autoritaires très durs, des écarts de richesse pas possibles, une histoire coloniale assez perturbante souvent. Donc c'est ambitieux, mais j'essaie de vous présenter un dossier statistique sur ces pays africains tout en essayant de contextualiser, de décrire un peu les crises que vivent ces pays-là. Ce sera fait en deux parties parce qu'il y a vraiment trop de stock à vous raconter. Dans deux semaines, lors de la prochaine émission, on fera une deuxième partie. Je vous parlerai davantage des pays qui accueillent les réfugiés que des pays d'où partent les gens. Ouais, qui sont à l'origine des grands mouvements migratoires en Afrique. Donc, le pays africain d'où provient le plus de réfugiés, c'est le Sud-Soudan, qui est pas mal au milieu de toute la région composée de ces 7 pays-là. Donc, comme c'est généralement le cas lors des déplacements massifs de population, ce sont les pays voisins qui accueillent la quasi-totalité des 2,5 millions de réfugiés sud-soudanais. C'est quand même quelque chose de 2,5 millions pour une population de 11-12 millions, si je me rappelle bien. À ces 2,5 millions de réfugiés, il faut ajouter 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Donc, finalement, c'est presque le tiers du pays qui a quitté sa maison. 2,5 millions de réfugiés à l'extérieur, 2 millions de réfugiés internes. Donc, ça nous fait quasiment 5 millions sur une population de 12 millions qui habite plus chez elle, finalement. C'est aussi un pays, on parle toujours du Sud-Soudan, qui, avant même les 30 ans de guerre civile, avait une infrastructure sanitaire déjà précaire, infrastructure qui est maintenant pratiquement inexistante. Médecins sans frontières estime qu'environ la moitié des Sud-Soudanais dépendent directement de l'aide humanitaire pour survivre. Où vont les Sud-Soudanais qui sortent du pays? En majorité au Soudan, 900 000 d'entre eux. Donc presque la moitié des Sud-Soudanais qui fuient le pays prennent refuge dans le pays dont ils ont fait sécession il y a quelques années, en 2011. Le Soudan qui, paradoxalement, oui, reçoit en masse, mais d'où l'on fuit aussi massivement et aussi vers le Sud-Soudan qui accueille 300 000 réfugiés soudanais. Donc mouvement migratoire dans les deux directions entre le Sud-Soudan et le Soudan. Je sais pas si on me suit. C'est, moi, j'ai quand même dû relire quelques extraits pour essayer de vulgariser tout ça. Les Sud-Soudanais fuient aussi vers l'Ouganda, environ 800 000 d'entre eux, l'Éthiopie, 400 000, le Kenya, 100 000, la République démocratique du Congo, 100 000 aussi. Après le Sud-Soudan, le deuxième pays africain qui génère le plus de réfugiés est la Somalie. Presque 1 million de réfugiés sur une population totale de 11 millions. Donc, la moitié moins de réfugiés qu'au Sud-Soudan, mais ça reste quand même...
Ça reste 10 % de la population.
Oui, ça reste... tout le monde connaît quelqu'un qui est un réfugié, ça c'est clair. Donc, la Somalie, pour situer les gens, c'est vraiment la corne de l'Afrique proprement dite. Là. C'est le genre d'énorme coude qui ferme et surveille le golfe d'Aden et la mer Rouge entre la péninsule arabique et le continent africain. Donc, des milliers de kilomètres de côte tellement stratégiques, ou un peu, il y en a qui appellent ça le Gibraltar de l'Afrique de l'Est. Petite parenthèse, on entendait parler de pirates dans les dernières années qui détournaient des bateaux conteneurs, des pétroliers. Ben, c'était à partir de la Somalie. Donc, la Somalie, c'est aussi plus de 20 ans de guerre civile, toujours pas terminée d'ailleurs. Un gouvernement nommé par des chefs de clan, des groupes djihadistes, des crises sanitaires à répétition. Il y a eu une sécheresse dévastatrice toute récente en 2017 dont on ne s'est pas encore remis, qui non seulement a tué des milliers de personnes, mais qui a plombé une économie principalement basée sur l'agriculture. Donc, Somalie, 1 million de réfugiés en 2018 et la tendance année après année est encore à l'augmentation. Le troisième pays africain qui génère le plus de réfugiés, c'est le Soudan. À ne pas confondre avec le Sud-Soudan qui est séparé du Soudan maintenant. Donc, du Soudan, à proprement parler, partait en 2018 plus de 700 000 personnes, encore une fois vers les pays voisins, avec en plus du Sud-Soudan, le Tchad comme principale destination. Donc, on a le portrait trop habituel de conflits armés, de situations précaires. On peut aussi ajouter comme facteur de déstabilisation au Soudan le climat qui brûle tout, qui sèche tout. On peut aussi ajouter le rôle des minières chinoises, entre autres, canadiennes peut-être aussi, j'ai pas vérifié, mais qui apprécient particulièrement le sous-sol soudanais qui est riche en métaux qui composent nos laptops et nos téléphones portables. Je veux pas culpabiliser personne ici.
Non.
Mais s'il y a un nouveau iPhone demain, attendez
peut-être
l'année prochaine.
Peut-être
c'est ça. Les minières n'hésitent pas à déplacer des régions entières pour leurs opérations d'extraction, d'exportation, avec toujours, évidemment, la bénédiction des autorités locales, qui n'hésitent pas à leur payer des infrastructures très coûteuses. Des opérations minières qui non seulement forcent le déplacement de la population, mais qui reconfigurent carrément le relief en utilisant la totalité des ressources assez rares en eau et en énergie du pays. Ça laisse le territoire complètement stérile, toxique et hostile à toute vie humaine et toute vie végétale, animale. Dans ce top 10 mondial des pays d'où proviennent les réfugiés, à la suite du Sud-Soudan, de la Somalie et du Soudan, on trouve aussi la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Érythrée et le Burundi. Il me reste un peu de temps, je vais pouvoir poursuivre pendant une minute ou deux. Ah, quatre minutes quand même. Je vais avoir le temps de parler de la planète au complet, je pense, finalement. Donc, j'ai sauté pour l'instant le Congo et la République centrafricaine, donc ce serait bien de vous parler une autre fois. Je vais sauter aussi le Burundi, qui est un tout petit pays voisin du Rwanda, un régime autoritaire dont Human Rights Watch dénonce souvent les dérives. On va aller vers l'Érythrée, qui est un cas assez particulier. 500 000 réfugiés en 2018, à peu près autant de déplacés internes. Donc, pourquoi l'Érythrée est un cas si particulier? D'abord, ça a été un territoire italien jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis ça a été cédé à l'Éthiopie, qui n'était pas une colonie européenne. S'en est suivi une guerre d'indépendance contre l'Éthiopie qui a duré 30 ans, des années 60 aux années 90, pour mener finalement à l'indépendance de l'Érythrée. Les deux pays, l'Éthiopie et l'Érythrée, vont rester en guerre jusqu'en 2018. Donc, si on additionne, ça fait pratiquement 50 ans de guerre ininterrompue entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Il y a un accord de paix qui a été signé il y a exactement un an, je crois que c'est en juillet 2018. Donc, l'Érythrée est un des seuls, sinon le seul pays au monde à imposer un service militaire obligatoire illimité. Ce qui veut dire qu'énormément d'hommes et de femmes ont été contraints d'être militaires en service pendant toute leur vie. incluant une partie de leur enfance. Donc, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui imposent un service militaire.
Ouais, comme mais, Israël, entre autres.
Comme Israël, comme je crois que la France, on discute pour le retour d'un service militaire, mais c'est un an ou deux ans, puis ensuite, tu coches, tu le fais. C'est illimité dans le cas de l'Érythrée. Donc, tu peux servir, j'aime pas le terme servir, mais tu peux être au service de l'armée érythréenne pendant 45 ans. Mm. Puis on ne dit pas quand est-ce que tu vas en sortir. Donc, tout le monde s'entend pour dire que l'Érythrée est l'un des pires pays de la planète pour les droits humains. Le pays est dirigé par un fou furieux, Isaias Afwerki, depuis 1993 sans interruption, donc depuis 28 ans. Tout le pouvoir est concentré entre ses mains. Et à date, il aurait été le seul président de l'Érythrée, puisque c'est un pays qui existe depuis... Depuis les années 90. Question d'en rajouter une couche, l'Érythrée est le pays qui a le pire indice de développement humain au monde. Le chiffre, c'est 0,35 pour ceux et celles qui connaissent cette mesure-là. Donc, le pire pays au monde pour la qualité de vie, finalement. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunissait il y a deux semaines et selon sa nouvelle rapporteure spéciale, c'est la chilienne Daniela Kravets, la situation des droits de la personne ne s'est pas du tout améliorée depuis la signature de l'accord de paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie en 2018. Donc, en plus du service militaire illimité toujours obligatoire, il y a des disparitions, des détentions secrètes, pas de liberté de presse, pas de liberté de religion. En fait, vous voyez le portrait. Petite fantaisie ici de la part du régime dictatorial érythréen. On étend la répression à l'étranger. Donc, des sympathisants et des responsables du gouvernement érythréen à l'étranger espionnent, harcèlent, intimident, parfois même agressent et tuent les défenseurs des droits humains et les militants exilés qui critiquent le régime érythréen. Ça peut se passer en Europe, ça peut se passer aux États-Unis, ça peut se passer dans d'autres pays africains. Donc, espionnage, menace de mort, agression physique, mensonge, tous les moyens sont bons. C'était déjà un peu connu comme phénomène, mais ça a été documenté tout récemment par une étude d'Amnesty International publiée en juin dernier et qui s'appelle « Repression Without Borders ». Le gouvernement nie toutes ces allégations, mais se tire un peu dans le pied parce que sur Twitter et les autres réseaux sociaux, tu as des ministres du gouvernement érythréen qui profèrent eux-mêmes des menaces et des insultes, dont aux représentants d'Amnesty International, tout en niant faire des menaces et des insultes. Donc, des grands champions de la communication. Quelque chose d'un peu ironique à ajouter, l'Érythrée siège actuellement au Conseil des droits de la personne de l'ONU. Je ne sais pas si l'Arabie préside encore le Conseil, mais l'Érythrée a son fauteuil bien attitré. Donc, on va s'arrêter ici pour ce grand dossier Afrique. On poursuit lors de la prochaine émission avec quelques mots sur les autres pays de la liste qui génère des migrations en Afrique, mais on va surtout mettre l'emphase sur les pays qui accueillent ces millions de réfugiés en Afrique. Alors, dans quelques instants, on reste à l'international, mais on va remonter un peu vers le nord avec Marie-Ève.
Vous êtes toujours avec les Apatrides Anonymes et vous verrez que cette édition des Apatrides est beaucoup axée sur l'actualité internationale. Ça fait changement parce que, comme le sujet dont Simon vient de nous parler...
Je m'ennuie de François Legault.
Ouais. On n'entend jamais parler de ces choses-là. Alors, moi, comme tu disais, Simon, je vous ramène un peu plus vers le nord. On retourne en Europe et plus précisément vers l'Italie. Où Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien et chef de la formation politique d'extrême droite Ligue du Nord, a depuis longtemps fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. Il a adopté principalement une stratégie, c'est-à-dire empêcher tous les bateaux de sauvetage d'ONG d'accoster en Italie, allant même jusqu'à arrêter leur capitaine. En juin dernier, il a même fait adopter un décret lui donnant le pouvoir d'interdire les eaux italiennes à tout navire qu'il estime représenter une menace pour la sécurité et l'ordre public. Ce décret-là prévoit des amendes jusqu'à 50 000 euros contre le capitaine, le propriétaire et l'armateur d'un navire qui entrerait sans autorisation dans les eaux italiennes. Donc, chaque fois qu'un de ces cas-là se produit, c'est la même rengaine. Pour Salvini, les bateaux d'ONG sont complices des passeurs. Il les traite de hors-la-loi, de chacal, et il renvoie la responsabilité aux autres pays de l'Union européenne.
Juste, il me semble qu'on accuse souvent ceux qui facilitent l'accueil des bateaux, de faire de la traite de personnes. Il me semble que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent.
Oui, ça fait aussi partie de la traite de personnes, comme je dis, complices des passeurs, traite de personnes, les traites de criminels, d'à peu près tous les noms.
Ouais.
Effectivement. Je vous propose aujourd'hui un retour sur quelques cas de bateaux qui ont récemment fait les frais de la politique anti-immigration de Salvini. D'abord, le Sea-Watch 3, qui, le 29 juin dernier, le navire qui vient d'une ONG allemande accostait dans le nord de Lampedusa, en Sicile, avec 42 migrants secourus au large de la Libye, malgré l'interdiction et après avoir été bloqué dans les eaux internationales depuis plus de 2 semaines. Il y a 11 migrants qui avaient déjà été remis aux gardes-côtes italiens pour des raisons médicales. Les autorités italiennes ont arrêté sa capitaine, Carola Rackete, qui est âgée de 31 ans, et ils l'ont placée en assignation à résidence. Quelques jours plus tard, une juge italienne a invalidé son arrestation et levé l'assignation à résidence au motif qu'elle avait agi pour sauver des vies. Toutefois, Carola Rackete est toujours visée par 2 enquêtes, une pour aide à l'immigration clandestine et une autre pour avoir mis en danger la vie de 4 policiers qui se trouvaient à bord d'une vedette des gardes-côtes qui a été heurtée par le Sea-Watch 3 au moment où il accostait de force. Pour cette dernière accusation-là de résistance à un navire de guerre, c'est le nom là, comme tel de l'accusation, elle risque entre 3 et 10 ans de prison.
On présume que le bateau, la vedette policière, essayait de se mettre dans pour bloquer...
Essayait en fait de l'empêcher d'accoster au port de Lampedusa, puis elle elle a tenté une manœuvre donc pour contourner le navire, puis... Donc, en réaction à la décision du tribunal, Matteo Salvini a fait savoir qu'il espérait davantage de sévérité, évidemment, de la part de la justice, mais a promis d'expulser la capitaine le plus tôt possible du pays. Quant à elle, la capitaine s'est excusée d'avoir tenté une manœuvre dangereuse contre la vedette des douanes qui voulait justement, comme je disais, l'empêcher d'arriver, affirmant que son geste n'en était pas un de violence, mais bien de désobéissance. Je la cite, « Je n'avais pas le droit d'obéir. On me demandait de les ramener, c'est-à-dire les migrants, en Libye. Ce sont des personnes qui fuient un pays en guerre. La loi interdit qu'on puisse les ramener là-bas », a-t-elle poursuivi. Quant aux 42 personnes migrantes, elles ont été conduites dans un centre d'accueil à Lampedusa. Mais dans un message Twitter, Salvini a déclaré « Hors la loi, arrêté, bateau pirate saisi, grosse amende pour une ONG étrangère, tous les migrants répartis dans d'autres pays européens, mission accomplie.
» On le félicite,
oui. Il n'a pas fourni le nom des pays d'accueil, mais selon la presse italienne, il s'agirait de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Finlande et du Portugal. Ensuite, une semaine après le Sea-Watch 3, c'était au tour du navire Alex de l'ONG Méditerranée d'accoster dans le port de Lampedusa, après avoir attendu, lui, 2 jours dans les eaux internationales, et lui aussi avec une 40aine de personnes migrantes à bord, rescapées au large de la Libye. Pour l'Alex, ce qui s'est passé, c'est que Salvini avait conclu avec Malte un accord pour faire débarquer les migrants en échange d'un transfert vers l'Italie d'un nombre équivalent de migrants accueillis précédemment à Malte. Fait que c'est du niaisage, là. C'est 4,25 sous pour une pièce. Mais le Méditerranéen a estimé que, compte tenu des conditions d'hygiène intolérables à bord, son voilier ne pouvait transporter jusqu'à Malte les migrants encore à bord après le débarquement à Lampedusa des 13 les plus vulnérables, qui étaient des familles et des femmes enceintes, parmi les 54 personnes là, qui avaient été recueillies en mer. La police italienne a saisi le navire et a ouvert une enquête contre son capitaine. La même journée, le Alex avait été rejoint par un autre navire de l'ONG CI, cette fois-ci, le navire Alan Kurdi, du nom de l'enfant syrien qui avait été retrouvé noyé en Turquie en 2015 et qui lui transportait 65 migrants, mais qui n'était pas encore entré dans les zones territoriales italiennes, attendant dans les zones, dans les eaux internationales au large de Lampedusa. Selon le CI, il y avait 64 hommes et une femme qui ont été secourus à bord d'un canot surchargé, sans provision d'eau suffisante ni téléphone satellite ou quelconque instrument d'aide à la navigation. Le lendemain soir, 65 migrants, les 65 migrants de la Lane Kurdie ont pu être débarqués à Malte et vont désormais être répartis dans d'autres pays européens. Le ministre allemand de l'Intérieur, en réagissant à tout ça, a demandé à Matteo Salvini de revenir sur la fermeture des ports italiens aux navires acheminant des migrants. Matteo Salvini a répondu de façon très candide dans une vidéo sur Facebook qu'il était hors de question qu'il change de politique. Je le cite encore une fois. « Cher gouvernement allemand, je ne rouvrirai pas les ports. S'il y a quoi que ce soit, nous ferons monter les migrants à bord d'un véhicule et nous les conduirons à l'ambassade d'Allemagne. » Voilà, c'était la réponse de M. Salvini. Et évidemment, bon, selon les ONG, mais aussi selon l'ONU et même selon une déclaration récente du ministre italien des Affaires étrangères, les droits des migrants ne sont pas garantis en Libye, où beaucoup sont soumis à des abus et des tortures. J'aimerais également rappeler que la Libye, hein, est un pays en guerre. Donc, le 2 juillet, il y a le bombardement aérien d'un centre de détention pour personnes migrantes a tué 53 d'entre elles près de Tripoli, en plus de faire au moins 130 blessés. Le centre de détention abritait environ 600 migrants, en majorité des Érythréens et des Soudanais. Voilà, tout est dans tout, comme on dit.
Qui cherchent une meilleure vie.
Hein. Ouais, et qui vont se faire bombarder en Libye. Donc, il y a 2 des 5 hangars du camp qui a été touché, et les quelques 120 migrants se trouvaient dans le hangar numéro 3 qui a été vraiment touché de plein fouet. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence sur la Libye, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé une enquête indépendante sur l'attaque contre le centre et réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat en Libye. L'ONU avait fourni la localisation exacte du centre de détention aux parties en conflit afin d'éviter qu'il soit pris pour cible. Et elle avait également maintes fois exprimé son inquiétude sur le sort d'environ 3 500 migrants et réfugiés en danger dans les centres de détention qui sont situés près des zones d'affrontement. Je terminerai avec les paroles du chef du Haut Commissariat pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui a quant à lui porté 3 messages clés assez simples et sans équivoque qui nous ramènent en fait à la réalité. Les migrants et les réfugiés ne doivent pas être en détention. Les civils ne doivent pas être des cibles. La Libye n'est pas un lieu sûr pour un renvoi des migrants.
De chez moi, devait être 9h15 au soir, la mi-décembre, en ce moment faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue Sun. J'ai à peine aperçu l'autopatrouille qui accélérait. Une fois dans mon char, je démarre et puis tourne à gauche. Je dirais que je rentre dans la ruelle, me stationner derrière la piole. Je check dans mon rétro, qui que je vois pas la popo. De face, de banane, comme s'ils voulaient prendre en photo. À peine le pied au sol, on me crie reste dans ton auto,
oui,
reste dans ton auto.
Mais
reste dans ton auto. Ok, j'ai compris, c'est toujours mieux de rester poli. Mais pourrais-je me manquer rire de vos motifs pour me coller? Écoute, on t'intercepte, on se fait une capuche sur la tête. Pour ma part, de rétorquer, c'est l'hiver qui fait fret. Je vais te donner un indice, présentement, il fait moins 10. Difficilement est la caisse, mais bon, il fallait qu'il insiste.
Yo, tout ce que je dis est vrai, si je mens à l'indice.
En fait, à vrai dire, on n'a aucune idée de qui. On veut seulement t'identifier, pourquoi te sentir attaqué. Tu veux savoir pourquoi? First, tu dis que tu connais pas. Mais connais-tu le voisin d'en face ou bien la petite madame d'en bas?
Non.
Connais-tu chaque citoyen de la ville?
Non.
Alors pourquoi susciterais-je plus son intérêt? Qu'est-ce qui me différencie en telle ou telle personne ici? Qu'est-ce qui dans mon apparence fait que tu me demandes mes IDs? Apparemment perplexe, il me répond, je sais pas trop. Profilage, la vie n'est fake avec l'aval de ses patrons. Ici à Québec, ça fait partie de la tradition. Laisse-toi coller, ferme ta gueule, surtout faut pas poser de questions.
Non, c'est pas vrai, faut que tu poses des questions. Mais reste poli, reste calme. Prends le matricule en note, prends la date, l'heure. Comme ça tu te montes un dossier, mais reste calme.
Bah, souvent il s'excite, dès qu'il pense au seton. Va demander à Big Six, ta face repose sur le béton. Pourtant une ville tranquille, donc ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de jeunes ou policiers sont bien trop chauds à battre le fer. Tout frais sorti du four, 22 ans et demi. Une page, une arme à feu, mais si peu d'expérience de vie.
y'a pas de gang, juste un prétexte politique. Tout ce qu'ils veulent sur le budget afin de payer les temps succès. Tellement irresponsable de la part de l'état-major. Stigmatise pop et black, je leur envoie le doigt majeur. Adepte la répression, ils pensent qu'ils vont tout régler seuls. Ne leur parle pas de prévention, c'est un concept qui déboussole. Mais bon, pour être honnête, ils sont pas tous des brutignards. Faut pas généraliser, même si c'est plutôt dur d'y croire. Et ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Mets ton poing dans les airs si jamais ça t'est familier. Si jamais ça t'est familier.
Un petit peu d'actualité locale en cette émission fort internationale et mondiale, comme on, puis on fait plein de liens avec, moi j'ai parlé de Salvini, Marie-Ève en parle, tout le monde, et on est vraiment connectés. Je vais vous parler un petit peu de Montréal, quelques minutes, ça a passé un petit peu inaperçu parce que c'était pas une grosse nouvelle avec du gros contenu, mais le 5 juin dernier, la ville annonçait l'adoption de sa politique d'accès aux services municipaux sans peur. Donc, entre guillemets, j'ai devant moi la réaction de Solidarité sans frontières, à qui on se réfère souvent pour ce genre de sujet-là, de dossier-là, qui reconnaissent d'emblée que c'est quand même intéressant, c'est quand même un gain que la ville reconnaisse qu'il y a des personnes qui sont sans papier, qui n'ont pas accès à des services. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant comme première, disons, reconnaissance, comme première première étape. Mais c'est sûr que quand on fouille un peu, parce que ce qui a été annoncé par la ville, ça n'a pas été nécessairement bien expliqué dans les médias et dans le détail non plus. Et ben ça nous dit que dans le fond, dans cette politique-là qui doit sécuriser les personnes sans statut à Montréal, les dizaines de milliers de personnes qu'il y a à Montréal, à ce qu'on sait, le SPVM est exclu de cette politique-là. D'ailleurs, c'est vrai, je voulais vous dire que la pièce qui vient de jouer, hein, c'était SPVQ de Webster, qui est un rappeur de Limoilou, donc lui il parle de Québec, mais qui parlait justement des abus policiers. Donc le SPVM est exclu de la politique de la ville. Donc c'est un peu bizarre, parce que vous avez entendu qu'on invite les personnes à fréquenter la bibliothèque, la piscine, mais ça se peut qu'ils puissent pas se rendre à la piscine, à la bibliothèque et se faire arrêter en cours de chemin par le SPVM, dans ce cas-ci à Montréal, et se faire envoyer dans la prison à Laval, être expulsé, être arrêté. Donc ça, c'est déjà un premier problème. On parle d'une carte d'identité produite par la ville qui serait seulement réservée aux personnes sans statut. Est-ce qu'on va encore plus les identifier,
mais
les stigmatiser?
Ça, c'est ce qui m'a... ça les identifie encore plus.
Encore plus que s'ils se font demander une carte par un policier, par exemple, ou un agent de sécurité. Donc, on les identifie comme sans papier. Donc, en faire des Montréalais comme les autres, on repassera un petit peu. Il y a aussi la création de la cellule d'intervention et de protection gérée par le CAVAC, qui s'occupe des personnes victimes d'actes criminels. On dit que ça ne servira pas à grand-chose parce que le système judiciaire s'est montré incapable d'aider des personnes sans statut à gérer des cas d'abus, de violence, d'harcèlement, de les défendre dans ces cas-là. Et évidemment, bon, la question de la discrimination et du racisme systémique dans le système de justice. Et cette cellule-là d'intervention du CAVAC pour aider les gens, ça exclut pas, ça empêche pas un agresseur ou un exploiteur d'appeler l'agence des services frontaliers pour dénoncer quand même une personne, puis dire, ben, on s'en débarrasse parce qu'il n'y a pas de papier. Fait que même si j'ai fait de quoi, ben, c'est l'agence qui va se servir de, qui va me débarrasser de cette personne-là et l'emprisonner. Années ou la renvoyer dans son pays d'origine. Donc, ça serait surprenant qu'il y ait plusieurs personnes qui aient recours à cette option-là du CAVAC. Sinon, ben, on rappelle que le SPVM est le corps de police canadien qui a fait le plus de vérifications de statut auprès de l'agence en 2018. Ça, c'est sorti dans les journaux récemment. Que la politique présentée par la Ville de Montréal est très loin du principe du « don't ask, don't tell », comme ça se fait, entre autres, dans certaines villes américaines, et un peu plus à Toronto, ça a l'air. Et ce qui est drôle, c'est que rien qui oblige, dans la législation provinciale ou fédérale, une municipalité comme Montréal à contacter l'agence à chaque fois qu'ils veulent l'identifier ou faire un signalement. Ils sont pas obligés de le faire. C'est vraiment le SPVM qui le fait sans que la ville l'empêche de, qui applique cette pratique-là actuellement. Donc, ça, c'est évidemment problématique. Ça reste que, avec ces nouvelles mesures-là, les personnes restent traitées différemment, même s'il y a l'histoire de la carte qui est pas claire encore. Et c'est sûr que, avec les informations collectées par la carte, par exemple, on dit que les lieux de résidence vont être connus. Donc, la surveillance policière va pouvoir plus croire dans certains quartiers où ces gens-là habiteraient s'ils ont une carte puis on a les informations. Et on sait que la police n'a pas, comme les autres unités administratives de la ville en vertu de la nouvelle politique, à adopter des modifications aux exigences d'identification et de former son personnel à la réalité et aux enjeux qui touchent les personnes sans statut non plus. Donc, SSF aussi dénonce un peu que Médecins du Monde, qui est un allié d'habitude pour la question des sans-statut, soit très content de cette nouvelle politique-là. Donc là, il va falloir qu'il y ait des choses qui se parlent. C'est dit dans le communiqué là, de Solidarité sans frontières. On parle que ça va davantage vulnérabiliser ces gens-là, selon SSF. Et finalement, peut-être vous dire en conclusion qu'on parle toujours pas de ville sanctuaire. Ça, c'est même la ville le reconnaît. Mais on dit que ça pourrait être possible d'être une ville qui tend vers une ville sanctuaire, c'est-à-dire s'attaquer, entre autres, à des questions d'accès au logement, d'éducation, de services de santé, services d'alimentation, qui sont quand même un peu plus importantes, guillemets, qu'à la bibliothèque ou à la piscine. Tu sais, on met ça sur un...
Oui, sauf qu'on en a parlé lors de nous... de notre dernière émission, c'est qu'une vraie ville sanctuaire, c'est une ville qui protège les personnes migrantes contre les déportations.
Ben c'est ça, c'est là où je m'en allais pour tout à fait pour la conclusion. Donc qu'il y ait une vraie ville de protection, qu'il y ait des communautés qui soient unies, que les gens soient intégrés comme les autres personnes qui vivent à Montréal. Mais ce qu'on prétend, c'est que la ville de Montréal n'est pas rendue là. Ils veulent pas se confronter avec les services de police entre autres, ni avec les autorités fédérales ou provinciales. Donc ça avance pas plus. Puis que la seule solution, ben, c'est une cité sans frontières où justement le système est changé et que les gens sont intégrés et sont protégés et ont accès surtout à tous les services, entre autres importants comme le logement et la santé pour l'intégration évidemment, puis pour l'égalité. Donc on vous conseille d'aller lire ce qui se fait sur le projet de cité sans frontières à Montréal et on espère éventuellement que la ville de Montréal aille un peu plus loin que cette politique sans peur qui porte bizarrement son titre.
Vous écoutez toujours les Apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca. Alors, les luttes antifascistes ont à leur disposition toute une panoplie de tactiques hein, pour contrecarrer les racistes et autres fachos de ce monde, que ce soit par le doxing, c'est-à-dire la recherche et la divulgation sur Internet des informations sur l'identité et la vie privée d'un individu dans le but de lui nuire, soit les contre-manifs, l'annulation ou l'interruption active de conférences ou de concerts, divers coups d'éclat, etc. Il y a d'autres types d'actions, toutefois, qui s'inspirent de la tradition ouvrière du sabotage, qui peut s'avérer d'une redoutable efficacité. J'aurais pu intituler ce segment des Apatrides anonymes le bon coup de la semaine, puisque la perturbation antifasciste dont je vais vous parler entre définitivement dans cette catégorie-là, mais on peut également la qualifier de nouvelle insolite de la semaine, ou du moins se mériter le prix de l'action la plus originale. En fait, c'est le week-end du 22 au 23 juin dernier, il y avait un festival de musique néo-nazie à Ostritz, un tout petit village de la Saxe allemande. Au départ, il y a eu un ordre du tribunal administratif de Dresde qui avait estimé quelques jours plus tôt que la vente d'alcool devait être interdite parce que le festival réunissait plusieurs mouvances d'extrême droite dont l'agressivité et la violence avaient déjà fait irruption lors de précédents rassemblements. La police a donc procédé, mesdames et messieurs, à une saisie de 4400 litres de bière sur le site du festival néo-nazi. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que les habitants et habitantes d'Ostritz n'en voulaient pas de ce festival-là et ont décidé eux aussi de passer à l'action. Donc, pour s'assurer que les fachos ne puissent pas étancher leur soif d'alcool, ils ont acheté, en compagnie de l'abbaye de Saint-Marien-Tal, tout le stock de bière des supermarchés du village, soit 120 caisses. Mais le village ne s'est pas contenté de ça non plus. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont disposé dans les rues du village des paires de chaussures pour chacun des 2262 noyés en Méditerranée en 2018, espérant sans doute que les festivaliers tombent dessus lors de leur déambulation dans les alentours du festival musical. Il y en a d'autres qui ont organisé un contre-festival, cette fois aux couleurs de la paix, de la diversité et de la tolérance. Enfin, pour bien enfoncer le clou, les habitants et habitantes se sont cotisés pour acheter des affiches publicitaires où on pouvait lire « Les habitants d'Ostritz trouvent que les nazis, ça sent pas bon », accompagné d'un joli emoji de Todd Marde qu'ils ont fièrement arboré sur les panneaux de la ville. Toute la presse allemande, le Spiegel Online en tête, a salué l'action concertée du village d'Ostritz. Et les Apatrides anonymes se joignent à ce concert d'éloges en ajoutant que Ostritz fait honneur au slogan Antifa « Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos ».
Yeah!
Et sur ce, on s'en va en musique avec le groupe Pottery et la pièce The Craft sur l'album numéro 1, mais qui est en 14e position du palmarès anglo.
C'est déjà terminé pour l'émission des Apatrides Anonymes du jeudi 11 juillet 2019, si vous nous écoutiez en direct, évidemment. Sinon, on peut être écouté sur choc.ca. Le site web des Apatrides Anonymes, vous pouvez aussi trouver les émissions qui sont là, mais toutes sortes d'autres informations aussi sur apatridesanonymes, tout au pluriel, .info. On est en studio avec cette émission, ma foi, internationale, un grand contenu mondial, africain, européen. Oui. On va essayer d'en faire le maximum pour les prochaines éditions. Donc, avec moi en studio, on a Marie-Ève qui nous dit un beau bye-bye.
Oui, merci à tout le monde d'avoir passé par-dessus les petites erreurs techniques du début de cette émission pour laquelle on s'excuse bien bas.
On est encore en rodage, mais je me joins à Marie-Ève pour les excuses officielles. On a Mathieu qui est à la console. Il peut pas nous parler, mais on lui dit un beau bye-bye. Il fait des grands signes que je ne traduirai pas.
Non,
sinon, prochaine émission, 25 juillet, donc jeudi 18h30, le 25 juillet. J'ai donné les coordonnées. Je pense qu'on est prête à se dire bye-bye. Une prochaine, pour la prochaine émission.
Peut-être qu'on entendra parler de François Legault à la prochaine émission.
C'est un peu inévitable. Peut-être qu'on entendra parler
Mathieu
de Andrew
Scheer. Mathieu est un grand fan.
Peut-être qu'on n'entendra pas parler du ministre fédéral de l'immigration non plus. Alors, c'est ça. Une bonne soirée à tout le monde.